Voilà, émission spéciale consacrée aux amis d'Ake Megalet. Nous débutons cette émission qui va durer un certain nombre de temps, sûrement 1h30 ou 2h, si tout se passe bien. Elle est consacrée aux amis d'Ake Megalet, cette association qui a œuvré en Algérie, qui a mis en place plusieurs projets là-bas sur le terrain. Nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus. On va accueillir déjà mes invités. Tout d'abord, Monsieur Salah Beka. Bonjour Monsieur Beka.
Bonjour Cadet.
Comment ça va?
Ça va très bien.
En pleine forme?
Non, difficile une heure
d'avance. Difficilement, c'est vrai qu'on est passé cette nuit à l'heure d'été et qu'on a du mal à se mettre en place. Hein. On va y arriver quand même. Mon invité aussi, c'est Monsieur Rabah Mezouane. Il est journaliste et réalisateur. Il travaille notamment pour Arte. Il est journaliste à l'événement du jeudi. Il a collaboré à de nombreux projets à l'Institut du Monde Arabe, pour ne citer que ces activités-là. Bonjour Rabah.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Eh ben, on va faire en sorte que ça aille encore mieux. Dans quelques instants, on va tout de suite commencer et entrer dans le vif du sujet par demander tout d'abord à Salah Beka la date de création de l'association Les Amis d'Ake Megalet. En quelle année?
Elle a été créée en 1991, du moins de manière administrative, parce qu'on avait besoin d'organiser un concert au profit d'un centre culturel qui se trouvait à Eri-Bouamès, en Algérie. Mais elle existait de fait, c'est-à-dire par le groupe d'amis, déjà depuis 1987. Et en organisant l'Olympia au nom propre, ça revient plus cher de louer la salle que de l'allouer au nom d'une association. Et donc, elle existe depuis avril 91.
D'accord. Est-ce qu'on peut savoir aussi, pour mettre un petit peu en place et pour que les auditeurs s'y situent, quel a été le premier projet qui a été développé pour l'Algérie en tant qu'association pour les amis d'Ake Megalet?
Ben, c'était justement cette opération pour le centre culturel d'Eri-Bouamès, suite à son association algérienne qui se trouve de son village, faisait toute une tournée avec les enfants de son village pour la construction d'un centre culturel dans le village. Ake Megalet auparavant était venu nous faire un gala entièrement gratuitement à Barbacha à la fin de l'électrification, et nous voulions amener notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire que nous, émigrés de Barbacha, nous voulions organiser un concert au profit de ce centre culturel, ce qui s'est fait donc le 20 avril 91.
20 avril 91, une date précise. On sait que l'association, et d'ailleurs nous ferons un tour de France de diverses associations qui a chapeauté les amis d'Ake Megalet. Vous avez notamment chapeauté la tournée aussi sur le plan national d'Ake Megalet avec plusieurs de ces associations. Quel a été votre rôle à ce sujet justement?
Ce n'est pas d'abord, ce n'est pas un désir de chapeauter quoi que ce soit, ça il faut le savoir.
Oui.
C'est de se limiter à mettre à disposition des associations, aux différentes structures, aux bonnes volontés qui souhaitent recevoir M. Ake Megalet, d'abord mon expérience, des moyens, une logistique, afin que tout se déroule dans les meilleures conditions, aussi bien pour l'artiste que les organisateurs. Et d'ailleurs, je voudrais dire une chose à ce sujet. Aujourd'hui, nous avons créé une structure autour de M. Ake Megalet. Il serait souhaitable que d'autres personnes, avec d'autres chanteurs, créent la même structure pour leur permettre aussi bien à l'association d'être efficace qu'aux chanteurs de se produire dans de bonnes conditions. Mais il n'y a qu'un seul point, à mon avis, qui est un point noir et qui est difficile à joindre, c'est que rien ne peut se faire sans l'amitié et le respect mutuel dans une équipe. Je prends par exemple, personnellement, mon expérience. Moi, je ne me vois pas travailler avec d'autres chanteurs que M. Ake Megalet. C'est une histoire de feeling.
Il faudrait
d'affinité, voilà. Il faudrait que ce genre d'affinité existe avec d'autres chanteurs et d'autres associations, et vous verrez que le travail serait bien plus efficace.
Alors, on a dit que les amis d'Ake Megalet avaient chapeauté plusieurs associations. On va en avoir d'ailleurs une au bout du fil, pas plus tard que maintenant. C'est l'association SOS Malade qui se situe à Lyon.
Oui, SOS Malade, le président, c'est M. Chaffard. Leur but, c'est de venir en aide aux migrants sanitaires français et étrangers par les mises en place de structures d'accueil, destinées plus particulièrement aux plus démunis d'entre eux. Et l'objectif de cette opération, qui va avoir lieu à Lyon, donc le 7 avril, c'est la mise en place d'une structure d'accueil et d'hébergement des malades et leurs accompagnateurs. Là, je pense que nous avons au téléphone M. Chaffard. Bonjour M. Chaffard.
Allô, bonjour M. Beka, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour M. Chaffard.
Bonjour monsieur. Oui.
On va peut-être vous poser la première question, puisque cette émission est quand même consacrée aux amis d'Ake Megalet, mais elle a aussi pour but de promouvoir les autres associations, et notamment SOS Malade.
Oui.
Est-ce qu'on peut connaître concrètement les actions qui ont été menées à ce jour par l'association SOS Malade?
Oui. Donc les actions concrètement menées, bien sûr, comme vient de le rappeler très justement Monsieur Bicard, entre autres, hein, car d'autres actions telles que, par exemple, les prises en charge d'un certain nombre d'enfants malades, d'acheminement de médicaments. Moi, je dirais, ce qui a été fait, c'est peut-être pas le plus important, même si, effectivement, ça a une importance capitale. Mais c'est surtout, c'est ce qui va être fait par la suite, justement. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est la continuité, si vous voulez. Alors, je vais commencer des quelques actions qui ont été menées, et cela grâce, naturellement, à l'aide de tous. Hein. Je rappellerai tout simplement qu'en 90, nous avons pu, grâce à l'intervention de M. Edmiglet, il faut le préciser, qui a donné un concert, bien sûr, gracieusement à la Bourse du Travail de Lyon, qui a permis d'envoyer un jeune de 26 ans à Boston, donc aux États-Unis, pour une opération délicate. Je rappellerai également l'action également que l'association a menée au niveau d'une prise en charge d'une petite fille de 3 ans qui était pratiquement condamnée, qu'on a pris en charge depuis l'Algérie. Donc elle s'est fait opérer ici à Lyon, et ça encore, je viens encore à le dire, je le répéterai jamais assez, grâce à toute une équipe, grâce à M. Edmiglet, encore lui, qui est venu donc à la Bourse de Travail, qui a permis donc l'opération, en fait la guérison de cette petite fille qui se porte à merveille aujourd'hui.
Monsieur Chapa, excusez-moi.
Oui. Je vous en prie.
Oui, donc là, vous avez énuméré quelques-unes des actions les plus importantes,
oui,
qui ont été menées.
Oui.
Et aujourd'hui, votre association, donc SOS Malades à Lyon, mm-hmm, si je puis dire, comment se porte-t-elle aujourd'hui et où en êtes-vous depuis 90?
Oui, en fait, l'association a été créée exactement en 87, début 87, ça fait 10 ans. Hein. Et, bon, ça passe vite. Alors aujourd'hui, il y a les points dont je viens de citer, qui sont une satisfaction en fait, d'avoir, ça a été une association qui, si vous voulez, qui a permis d'allumer un peu, c'est une étincelle en fait, qui a rallumé un peu ces flammes dans le cœur de chacun, puisque cette action est partie donc dans les hôpitaux. Nous avons effectivement tenu compte en fait des problèmes qu'ils rencontrent nos ressortissants, nos compatriotes. Bon, aujourd'hui, je dirais que il y a beaucoup de satisfaction dans la mesure où il y a cet élan de solidarité qui a été déclenché dans toute la France. Il y a où également on commence enfin à tenir compte donc des besoins réels autour des hôpitaux eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui sont en train de se mettre en place pour tenir compte de tous les problèmes que rencontrent ces gens-là. Et puis, je crois que c'est un point important pour nous, je dirais que nous avons servi en quelque sorte d'exemple, à savoir que maintenant, il y a des associations qui sont en train de se créer donc, pour ce genre de d'action. Donc, quant à nous, eh bien, nous sommes toujours sur le terrain, bien sûr. Nous essayerons de venir en aide encore à d'autres personnes, aussi bien ici, mais surtout là-bas, car la conjoncture actuelle, vous la connaissez, il y a de gros problèmes en Algérie, et notre souhait, c'est de leur venir en aide, donc, par des envois de médicaments et également de matériel médical. Voilà où on en est aujourd'hui.
Monsieur Chaffa,
oui.
Moi, je voudrais juste vous poser une question assez simple. Pourquoi encore Edmiglet à Lyon?
C'est une très bonne question, monsieur Bécard. Alors, écoutez, pour moi, il y a au moins trois raisons. Premièrement, monsieur Edmiglet est l'un de ceux qui ont une connaissance parfaite des problèmes de notre société actuelle, à mon avis. Et en particulier dans le domaine associatif. À partir de là, ça simplifie déjà les choses. Deuxièmement, pour moi encore, à mon avis, c'est le seul. Je le confirme aujourd'hui en disant que c'est le seul qui n'a jamais demandé un cachet structure d'une organisation qui répond parfaitement aux souhaits des associations. Non seulement cette organisation, elle aide les associations matériellement, faut le dire, mais aussi elle apporte une expérience et une connaissance aux associations dans le domaine des spectacles, car comme vous le savez, ce n'est pas toujours évident pour une association d'organiser un spectacle digne de ce nom, surtout lorsqu'on veut donner une image qui valorise un peu nos actions et notre culture.
Monsieur Chaffin, une dernière question peut-être, puisqu'on a beaucoup d'associations à contacter encore, on fait le Tour de France, comme vous le savez. Je poserai cette dernière question, à savoir quelle aide vous apportent les associations d'Aide Magalette Projet. Quelle aide concrète, réellement, en deux mots.
C'est ce que j'étais en train d'expliquer, en fait. Hein. J'étais en train de dire que, à ma connaissance, donc c'est la seule qui a une structure et une organisation qui aide les associations. Il y a des associations qui apportent une expérience dans le domaine d'organisation, donc aux associations. Hein. Donc c'est très important. Et bien sûr, donc j'allais terminer en disant que derrière cette organisation que nous connaissons, derrière cette organisation, il s'agit bien sûr de l'association Les Amis de Aït Megilad. Et à la tête de cette association, je voudrais rendre hommage un homme dont on ne parle pas beaucoup, c'est M. Bekaki, donc dans vos studios, en le remerciant chaleureusement.
Merci pour lui.
Je crois que ça lui va droit au cœur. Merci beaucoup, M. Chaffin, d'avoir été avec nous cette matinée. Bon courage et bonne continuation à l'association SOS Malade.
Je vous en prie et merci.
À très bientôt, M. Chaffin. Au revoir. Nous continuons tout de suite sur Tour de France. Pas de répit, on va directement à Nancy, l'association de culture berbère que Salah Beka va nous présenter tout de suite.
Cette association a été créée en 1992. Son président, je crois que nous l'avons au téléphone, c'est M. Haris Ghissadi. Ses principales activités sont les émissions de radio, promotion du cinéma d'art et d'essai, de concerts, cours de langue et de civilisation berbéro-algérienne. Monsieur Sadi, bonjour.
Bonjour, alors, monsieur Beka.
Vous allez bien?
Oui, ça va et vous?
Eh bien, ça marche. Alors, ça coule. Je crois que Cadet, du moins, Mézouane veut vous poser la question.
Oui.
Je crois que... bonjour d'abord.
Bonjour.
Ça me fait plaisir quand même de vous entendre parce que parmi les, vos principales activités, j'ai relevé notamment le cinéma d'art et d'essai.
Oui.
Et c'est quelque chose que j'apprécie. Et puis les cours de langue et de civilisation berbéro-algérienne, on n'en fera jamais assez. Je crois qu'on ne leur accordera jamais assez de place, donc c'est très bien. Alors, donc il y a cette venue d'Aït Megalet à Nancy. Et justement, pourquoi précisément ce choix, monsieur Sadi?
Eh bien, tout d'abord parce que, évidemment, c'était une demande pressante de nos adhérents et de nos sympathisants. Connaissant la notoriété qui n'est plus à démontrer de Louis Aït Megalet, nous avions une demande très forte. Mais ça va plus loin quand même, parce que nous voulions profiter de la venue d'une telle célébrité, qui rassemble bien sûr toujours beaucoup de monde, pour... nous aussi aider un petit peu, faire quelque chose pour le pays. J'entendais tout à l'heure la personne de Lyon qui le disait, et je crois que ça devient un souci permanent des associations qui sont en France, mais qui n'oublient pas un petit peu ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée.
Et précisément aussi, autre chose, une question qui m'intéresse et qui intéresse, je crois, cette radio, ainsi que M. Beka ou Kader, ça m'intéresse de savoir, dans votre association, est-ce qu'il y a des jeunes beurs, parce que la nouvelle génération, c'est important, cette relève que nous attendons tous, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes beurs qui viennent...
Tout à fait, c'est-à-dire que dans l'association, elle est essentiellement composée de jeunes beurs. Et il y a, donc c'est cette nouvelle génération, comme vous le dites, qui profite de ces deux cultures d'origine, à la fois une culture francophone et française, puisqu'ils sont, comme vous l'avez dit, d'une génération d'ici, et qui profitent aussi de ses origines maghrébines, algériennes, plus généralement, pour dynamiser un petit peu notre association et apporter quelque chose de nouveau à notre entourage.
Et vous attendez quoi, donc, de cet événement, de cette venue exceptionnelle de l'UNIS à Aït Megalet?
Eh bien, nous, reconnaissant, comme je vous ai dit, la générosité de l'UNICEF Mengelet, qui souvent a tendu la main aux associations ici en France et là-bas aussi en Algérie, dans son pays d'origine. Nous attendons de cette venue que beaucoup demandent, parce que je ne vous l'ai peut-être pas dit, la venue d'Aid Mengelet est associée ici à Nancy à une action qui s'appelle des livres contre l'obscurantisme et la culture en Algérie. Donc il y a une grande collecte de livres qui sera destinée aux bibliothèques amateurs, aux bibliothèques de village en Algérie. Donc nous attendons que, bien entendu, que cette personnalité généreuse collant bien à cette idée de récolte de livres rassemble un maximum de gens, et donc qu'on ait beaucoup, beaucoup de livres à envoyer là-bas.
Alors, c'est très bien ce que vous dites. J'ai en tête cette phrase d'une chanson d'un chanteur français, d'ailleurs, qui est Jean-Jacques Goldman. Oui. Et j'ai toujours retenu, c'était beau ce qu'il disait, en disant que je franchirais tous ces murs à coups de livres.
Voilà.
Alors, et justement, de quel type d'ouvrage il s'agit, grosso modo? Est-ce que c'est d'ouvrage généraliste ou d'histoire?
Oui, on n'a pas voulu, si vous voulez, restreindre. Il y aura un prix, bien entendu, après, enfin un prix, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'envoyer des doubles exemplaires, parce que l'acheminement sera évidemment un petit peu difficile à faire, mais il n'y a pas de restriction. Des livres de tout genre, des livres des romans, des livres scolaires, des livres techniques, des livres de tout genre.
Monsieur Sadi, je voudrais juste vous poser une question, si c'est possible.
Bien sûr.
Monsieur Mézoine vient de dire « je franchirai ces murs », c'est ça, monsieur Mézoine?
Oui.
Franchir, c'est bien. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous allez arriver de l'autre côté du mur, c'est-à-dire comment vous avez organisé la distribution de ces livres, pour arriver concrètement et à qui?
Alors, nous avons des relais là-bas, des associations avec lesquelles nous travaillons. Nous avons donc, par ces relais, évidemment, se sont occupés des problèmes administratifs sur le terrain. Et nous, de notre côté, ici, on s'occupe des problèmes administratifs ici. Et ces relais-là viendront à la douane récupérer. Et c'est d'ici que se fait déjà les tri des colis envers les différents, sans distinction. C'est-à-dire, on a un relais du côté d'Oran et on a des relais en Kabylie.
Merci beaucoup, et je crois, et bonne continuation surtout, et puis sans transition, je crois que nous avons quelqu'un à l'autre bout du fil, et puis de l'autre côté
de la Méditerranée, précisément en Algérie, c'est un grand journaliste que Salah Pega va nous présenter d'ailleurs, c'est Monsieur Amour.
Monsieur Amour, c'est le rédacteur en chef du quotidien L'Indépendant, qui a couvert les différentes actions de notre association en Algérie. Monsieur Amour, bonjour.
Bonjour Monsieur Bekin, bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs de Radio Peur.
Comment va l'Algérie, Monsieur Amour?
Disons, ça va, mais ça peut aller mieux.
Alors, je crois que... Monsieur Sadi, merci d'avoir appelé, et bon courage et bonne continuation. Merci. Au revoir.
Léger effritement, comme on dit en Belgique, de la petite friture, mais c'est pas grave, rassurez-vous, nous sommes tous toujours sur Beurre FM.
C'est normal, ça vient de très très loin, donc la ligne est effectivement pas très bonne, mais on l'entend.
Ça grésille, mais on l'entend distinctement. Et alors, Kader, je crois que tu as une question à poser à M. Amour.
Oui, on va lui poser peut-être une question concernant peut-être en général les amis d'Aid Mengelet, et à savoir comment la presse algérienne répercute les actions, et est-ce que vous êtes réellement au courant de ce que font les associations les amis d'Aid Mengelet, M. Amour?
Oui, bien sûr, j'ai eu l'honneur et la joie de participer à la majorité des actions de l'association d'Aid Mengelet ici en Algérie. Pardon?
Oui.
Particulièrement l'action en faveur des habitants de Dalbacha. Mais je dois d'abord dire qu'avant Aid Mengelet, il y a eu l'association des amis de l'association de M. Pekka, qui a réussi à faire ce que l'État algérien n'a pas pu faire depuis 62, l'électrification du village. Aid Mengelet ayant vu ça, il s'est donné à fond, il a foncé avec M. Beka et tout s'est réalisé l'opération Château d'eau. Et cette opération, justement, a été tellement bien perçue que même l'État n'a pas pu s'empêcher d'en faire l'apologie.
Nous en parlerons un petit peu plus longuement tout à l'heure. On va développer d'ailleurs le projet pour savoir comment s'est passée l'opération. Est-ce que vous-même là-bas, Madame O, vous êtes, on le rappelle, le rédacteur en chef du quotidien L'Indépendant, est-ce que vous continuez aussi à vous tenir au courant de ce que fait l'association des Amis d'Aide Mengelette et puis les autres associations que chapeautent les Amis d'Aide Mengelette? Est-ce qu'il y en a plusieurs?
Bien sûr, sinon je n'aurais pas appelé ce matin.
Oui.
Sinon, je suis en contact effectivement avec M. Becker. Je tiens à ce qu'il me dise tout ce qui se passe là-bas, tout ce qui se fait, tout ce que fait l'association des Amis d'Aide Mengelette et les autres associations aussi.
Alors, Ahmed Amou, vous êtes rédacteur en chef, donc vous êtes mon confrère. Vous êtes mélomane, sans doute. Alors, je voulais vous demander juste quel est votre sentiment sur le dernier album, Le Voyageur de Nuit, d'Aide Mengelette.
Oh là là. Je vais juste vous dire une chose. L'Indépendant est un quotidien. Il s'est permis, après la sortie d'Aide Mengelette, de faire un dossier de 8 pages sur justement la cassette d'Aide Mengelette. C'est vous dire qu'il y a...
Je lui ai dit le poète fou d'action. Vous êtes poète fou d'action, mais vous êtes plus porté vers les actions discrètes que vers les coups spectaculaires. Tout ce que tu as fait à part Balbacha est passé inaperçu. Il me répond, dans ce genre d'action, il ne s'agit pas de faire du spectacle, il faut être efficace. Cela n'a jamais fait partie de mes soucis. Si une action est médiatisée, c'est seulement dans l'espoir de créer un précédent et d'encourager les autres à se libérer des tutelles irresponsables et incompétentes. Voilà.
Merci beaucoup, Ahmed, d'avoir été en ligne avec nous, et bonjour à l'Algérie à travers vous.
Bonjour, au revoir.
Bon courage pour la suite. Nous allons marquer une petite pause publicitaire, impératif de la radio oblige. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission spéciale.
Avril à 15h et samedi 27 avril à 20h30. Réservation.
Smash, Olympia,
Magasin Carrefour, ACB,
Réseau traditionnel.
J'ai des places, 140 francs. Et pour connaître le support le plus proche de chez vous, appelez-le
48 33 21 48.
48 33 21 48. Exceptionnellement, le 8 avril, les billets seront également disponibles à la vente sur place.
You know.
spéciale consacrée à l'association Les Amis d'Aide Magalette Projet et à l'instant un extrait de son dernier album en date, ça s'appelle Dissoukre, et Rabbi Mezouane va nous en dire deux mots de cette chanson.
Oui, Dissoukre, c'est une des plus belles chansons pour moi de l'album, donc c'est au marché, c'est un rappeur on dirait aujourd'hui, et qui raconte la geste comme ça, et puis qui dit chaque fois c'est entrecoupé par à nos enfants, l'Algérie est notre pays. Donc, qui parle d'algérianité aussi, de poète, de maître, et puis qui me rappelle, tout à l'heure je parlais de Goldman, maintenant je vais citer un autre, qui s'appelle Lavillier, il est chanteur, pas haltérophile, hein, forcément.
Bernard Lavillier est chanteur, on confirme.
Oui, 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 et qui disait dans Blanc et Noir, à moins qu'il soit l'inverse, la musique est un cri qui vient de l'intérieur, oui. Qui fait rire les enfants, mais pas les dictateurs.
Exactement. Voilà.
Et donc, on ne saurait trop conseiller l'écoute de cet album paru chez nos amis de Triumph Music quand même. Il faut le souligner, c'était Le Voyageur de Nuit à toi, Kader.
D'accord, ben c'est noté en tous les cas. Salah Beka avait deux mots à dire.
Juste un mot à dire à M. Mezouane, donc, dit sourd, c'est loin d'être sourd, quoi.
Oui.
Exactement, petite note d'humour peut-être. Je voulais juste vous préciser, vous le savez, Aït Magalet sera en concert les 8 avril et 27 avril prochains, ce sera à l'Olympia, à Paris. Il sera bien évidemment en tournée dans toute la France, mais là c'est les deux dates parisiennes de la tournée d'Aït Magalet, 8 avril et 27 avril, et à ce sujet, peut-être une chose, mais pas négligeable à signaler, il y aura un tirage au sort qui sera effectué sur la scène de l'Olympia, une chose importante, c'est un jeu, mais une chance pour vous, de gagner peut-être un séjour de rêve d'une semaine, avions compris, pour un couple dans un 5 étoiles. On n'a pas fait les choses réellement à la légère, à l'endroit de votre jouet sur la planète. Ça veut dire que vous choisirez votre destination si vous remportez ce voyage, hôtel compris, hôtel 5 étoiles compris. Ce voyage est présenté et proposé par ABC Carrosse, les garages Méca Aubervilliers et l'agence Goutte d'Or Voyage. Voilà, voilà qui est dit. On va enchaîner tout de suite avec notre Tour de France des associations. On se dirige tout de suite à Marseille avec l'association culturelle Amazir que Salah Beka va nous présenter.
Alors, l'association culturelle Amazir de Marseille, elle a été créée en novembre 1993. Son président, je pense que nous l'avons au téléphone, c'est M. Farhad Merzoug. L'objectif, c'est la promotion et sauvegarde de la culture Amazir à travers le chant, la danse, le théâtre et en langue tamazir. Monsieur Merzoug, bonjour.
Bonjour Monsieur Beka.
Comment va Marseille ce matin?
Ça va, merci, il fait beau.
Le décalage ne vous a pas affecté?
Non, pas du tout.
Très bien.
Alors, avant de commencer, j'aimerais vous remercier d'avoir pensé à nous pour diffuser l'information et surtout de représenter un peu notre jeune association. Alors, sachez que nous n'avons que 2 ans et demi d'existence. Et effectivement, l'association a été créée en novembre 1993. Et croyez-moi que nous méritons d'être félicités pour ce que nous avons réalisé à ce jour et ce que nous continuons de faire en ce moment. Alors, si vous me permettez, les activités principales de notre association...
C'est la question que devait vous poser.
C'est la question que je devais vous poser. Mezouane m'a précédé, en fait.
Allez-y.
Donc, quelles sont vos activités à l'association culturelle Amazir, monsieur Merzoug?
Alors, voilà, donc je réponds à ma question. Et...
C'était ma question aussi.
Je dirais que c'est surtout en fait de l'initiation à la langue d'Amazir, pour ceux qui ont des difficultés de l'exprimer et ceux qui souhaitent l'apprendre. Et deuxièmement, on aide aussi les jeunes lycéens qui passent leur bac et qui ont choisi comme langue étrangère le berbère.
En option écrite, je crois, depuis 2 ans maintenant.
Oui, oui. Et écrite et orale en même temps.
Oui, parce qu'avant, c'était...
Orale, elle existait depuis très longtemps, alors, au baccalauréat.
Oui, c'est effectivement. Et puis, on aide aussi nos adhérents et les jeunes du quartier qui nous fréquentent en général dans leurs devoirs et la préparation à leurs examens. Par contre, pour les activités culturelles, on fait de la danse kabyle, purement kabyle, du chant, avec de jeunes artistes amateurs, de la guitare, et etc.
Du théâtre aussi.
Et puis on fait aussi du théâtre en langue berbère, c'est-à-dire carrément en langue
berbère, quoi. Il y a eu d'ailleurs des précédents, il y a eu des pièces, notamment par notre ami Mohamedou Ehia, qui a adapté pas mal de pièces, aussi bien de Brecht, il fallait le faire, et Je crois que le théâtre en Tamazight, on est encore à ses débuts, mais c'est très bien que vous fassiez ça. Alors moi, je voudrais revenir à ce concert d'Aït Miglat prévu le 6 avril, si ma mémoire est bonne.
Juste avant l'Olympia, pareil.
Juste avant l'Olympia. Et alors, pourquoi, encore une fois, le choix de Younis Aït Miglat?
Alors, vous savez, de nos jours, Younis Aït Miglat, nous dirons que c'est l'acteur principal de la chanson kabyle et de la chanson berbère en général.
Du roman de la chanson kabyle.
Ouais, mais je dirais que même la chanson berbère, je pense que c'est lui l'acteur principal de cette culture, de cette race, quoi. Donc, pour nous, on s'est dit que du moment qu'il est très très aimé, qu'il est très apprécié par notre communauté en général, à notre avis, et vu la crise, surtout qui frappe durement notre communauté à Marseille, avec surtout ces deux dernières années, il y a un petit peu le chômage, il y a donc c'est une période qui est très très difficile.
Oui, le commerce ralentit sur le cours Belzun, ça fait un moment, malheureusement.
Exactement. Alors, on s'est dit peut-être, et il se peut que c'est le seul qui pourra réunir, quoi, c'est-à-dire attirer le maximum de monde, et qui permettra aussi à notre association d'en tirer un petit profit financier par cette action.
Justement, je voulais vous poser cette question, c'était vous dire, après l'événement, qu'est-ce que vous voulez, par l'intervention d'Aït Miglat, quel objectif avez-vous?
Autrement dit, qu'attendez-vous de cet événement, la venue d'Aït Miglat à Marseille et ce concert?
Justement, on attend énormément de choses de la part de l'Unité Aït Miglat, c'est-à-dire qu'ils comprennent déjà la situation des associations, ce n'est pas seulement la nôtre, mais aussi les autres associations, qui travaillent ailleurs pour cette culture, parce que nous, en ce moment, on se pose la question, si on ne s'aide pas entre nous, et je pense que ce n'est pas un étranger là qui va venir nous aider. C'est-à-dire que, normalement, une fois que les associations font appel à des artistes comme Younis Aït Miglat, comme Matoub, comme Farhadi Mazirani Moulin, comme Yibir, etc., etc., je pense que normalement, il faut qu'il soit quand même très souple avec les petites associations. Voilà, et qu'on attend surtout par rapport au monde là qui vont se déplacer, qu'ils comprennent pourquoi on existe et quel est l'objectif surtout de cette association, et qu'on attire le maximum de militants, le maximum d'adhérents pour qu'ils nous comprennent et qu'ils nous aident à réaliser et atteindre l'objectif et notre rêve, qui est celui de remonter un petit peu le niveau culturel et de dire et de montrer surtout aux Français, ici en Europe, d'exporter en quelque sorte notre culture, parce qu'elle a été toujours maîtrisée chez nous, donc on voulait l'exporter et dire qu'on est là, qu'on existe, que notre culture est quand même très riche et très valeureuse.
Une dernière question au Salam Beka, oui, avant de...
Juste relever un point que dit Monsieur Merzoug, c'était la souplesse des chanteurs. C'est vrai qu'il faut qu'ils soient souples, mais souvent, et là Monsieur Merzoug tombe très mal, parce que ce que je vais dire, ça concerne Marseille il y a de cela 4 ans, Aït Miglat avait chanté, à la Maison de l'étranger sous l'égide d'une association qui s'appelait l'association Tala.
Oui.
Nous avions plus de 800 personnes dehors, je m'en rappelle, j'ai eu chaud le jour-là, et la salle était pleine, et Aït Miglat avait proposé à l'association de refaire tout de suite après un deuxième concert gratuit pour satisfaire tout le monde. Oui. Et quand vous parlez de souplesse, moi j'ai trouvé une rigidité extraordinaire de la part de cette association qui a refusé ce deuxième concert offert gratuitement simplement pour satisfaire les gens qui se trouvaient dehors, et on a été obligés, heureusement que la pluie est venue à notre secours, de leur demander de partir.
Alors on est bien clair, c'est pas l'association culturelle Amazir qui est
concernée. Pas du tout, j'ai cité.
Non, c'est une association curieusement qui s'appelle La Source, vous parlez de pluie.
Peut-être pas la peine de les citer, de leur faire de la pub non plus. Hein,
c'est déjà fait.
On va peut-être attirer sur l'ambulance. Hein.
Non, la source, on ne sait pas. Hein.
Quant à M. Merzoug, c'est vrai que ça fait un an et demi qu'il court derrière Aït Miglat pour avoir le plaisir de l'avoir à Marseille avec.
Ben, merci beaucoup, M. Fahad Merzoug. Je rappelle qu'il est président de l'association culturelle Amazir à Marseille. Merci d'avoir été des nôtres, et puis à vous aussi, bonne continuation.
Merci.
À très bientôt, M. Merzoug. On va poursuivre tout de suite avec notamment cette émission spéciale. Si vous venez juste de nous rejoindre, merci d'être là. Émission consacrée aux amis d'Aït Miglat Projet, cette association qui a besoin d'être connue. À la elle fait beaucoup pourtant, et elle a besoin de faire parler d'elle. Notamment, nous allons peut-être enchaîner sur cette grande opération et ce projet qui a été mené à Barbaja concernant l'électrification de 13 villages. Est-ce que Salah Peka peut nous en dire un petit peu plus, nous resituer dans le temps, peut-être ça s'est passé quand et comment?
Ça a commencé en octobre 89, terminé en janvier 90, ça a duré 5 mois et demi, ça représentait 7000 personnes électrifiées, 13 villages au total, c'est-à-dire 50% de la commune. Il y a eu là une blessure assez importante, c'est-à-dire que nous avons eu un décès, un enfant de 12 ans qui a été écrasé lors d'une opération de déchargement. Et c'était un événement très important pour nous. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que nous avons connu, après l'opération, Ait Mengelet qui est venu nous soutenir, car les gens voulaient faire un concert avec Ait Mengelet, bien entendu, et parce que pour eux, il représentait le chanteur qui représentait, si vous voulez, l'exploit réalisé sur le terrain était traduit par un chanteur de cette dimension.
Alors ça me permet d'enchaîner sur une question. L'association s'appelle les Amis Ait Mengelet Project. Parfois il y a des associations qui portent des noms d'artistes. Ces artistes ne sont pas réellement d'accord ou ne soutiennent pas réellement l'action menée par cette association. Alors qu'est-ce qu'il en est pour les Amis Ait Mengelet? Est-ce que Ait Mengelet a réellement participé à la création de l'association Salah Peka?
À la création, non, pas du tout. Lorsque nous avons décidé de faire notre premier projet en tant qu'immigrés pour soutenir l'opération d'Eric Bouhemès, nous avions l'intention donc d'organiser l'Olympia, et c'était tout simplement une opération qui devait mourir après l'Olympia.
Oui.
Et on avait dit, on avait demandé à Ait Mengelet s'il acceptait qu'on utilise son nom, et il a dit que pour lui c'était un honneur, mais après le 20 avril, pour nous ça devait complètement se terminer. Mais l'opération avait pris une importance grande, c'est-à-dire qu'il y avait eu radiodiffusion directe du concert. C'est une manière pour les immigrés de soutenir, de montrer qu'ils soutenaient ce qui existait, ce qui se faisait en Algérie. Donc c'était retransmis en direct sur la chaîne 2. C'était le premier guichet fermé. Il faut le savoir.
27 jours avant, je crois, la date du concert.
Oui, d'ailleurs, Ait Mengelet a payé son orangina.
Livre des records, quoi.
C'est une anecdote, c'est un petit pari passé entre...
Voilà. Et puis, c'était aussi la première fois qu'un chanteur chantait à Paris, dans l'après-midi, et chantait au stade de Tizi Ouzou,
à 22h, très précisément.
Voilà.
Alors, ça là, il faut rappeler, Kader aussi, que l'association des Amis d'Ait Mengelet Projet n'est pas un fan club. Hein.
Ah oui, on pourrait, c'est vrai que par le nom, on n'a peut-être pas, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est pas du tout un fan club, dédicace, avec des rencontres peut-être, ou du courrier, c'est réellement une association de projets et d'initiatives.
Là, je pense prendre, mais tout le monde à contre-pied, moi je ne comprends pas les chansons que chante Ait Mengelet. Alors, fan club, je crois que je serais vraiment le plus mauvais représentant.
Décalé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, donc, vous faites ce que vous savez faire, et apparemment, vous faites très bien, d'après les retombées qu'on a. Alors, Ait Mengelet, concernant ses projets, est-ce qu'il a toujours été présent à vos côtés, aux côtés de l'association Les Amis Ait Mengelet?
Oui, il a vraiment toujours été présent. Les projets se décident avec lui, mais moi, je voudrais juste dire un mot aux associations qui nous écoutent. À tout projet, Ait Mengelet demande des conditions précises pour se produire. Il faut d'abord que ce projet, qu'il serve le maximum de personnes, premièrement, qu'il soit bien ficelé dans l'organisation, qu'il soit d'intérêt général. Ces conditions réunies, moi je vous le dis sincèrement, il ne refuse jamais. Cela prouve qu'il est très vigilant envers ses interlocuteurs. Il s'implique aussi sur le terrain. Je prends pour exemple la caravane de solidarité où il y avait trois quarts qui descendaient. M. Chaffard en parlait tout à l'heure à Lyon. Eh bien, il a fait le voyage avec nous. On parle d'Azazga où 64 personnes de la commune de Barbaja étaient allées faire un volontariat à Azazga. 64 personnes qui représentaient toutes les corporations de métier.
Oui.
M. Ait Mengelet est resté une semaine avec nous, puisque ça a duré une semaine. Les châteaux d'eau, pour terminer, après avoir chanté au stade de Béjaïa, durant la construction de ces châteaux d'eau, régulièrement, il a fait des visites pour voir si les travaux continuaient. Bien sûr, il s'investit totalement.
Nous allons enchaîner tout de suite le Tour de France des associations en allant à Beauvais, où nous avons en ligne M. Hossein Rahmani, qui est responsable. Il va nous en dire un petit peu plus, M. Salah Peka.
D'accord. Nous avons donc au téléphone M. Hossein Rahmani, qui intervient aujourd'hui sous un aspect très particulier. Je vous le dis honnêtement, il a réussi une prouesse. D'ailleurs, il en réussit régulièrement, mais il faut le connaître, de faire se rencontrer les responsables de diverses associations pour un projet commun. Monsieur Hossein Rahmani, bonjour.
Bonjour.
Ça va, Hossein?
Ça va, ce matin.
Voilà.
C'est un peu difficile pour la veille, quand on a perdu une heure de sommeil, c'est un peu délicat.
Justement, on va peut-être commencer à entrer dans le vif du sujet. Quelle est cette idée fédératrice que vous avez eue, Fassine Ahmed?
Oui, alors, juste à l'instant, vous évoquiez un petit peu les rapports que peut avoir Lucette Mengele avec les associations. Et il est vrai que, par moments, on peut être un petit peu réticent quand on intervient une organisation. Et le souhait qu'on a essayé, nous, ici, qu'on a voulu réaliser sur la ville, c'était avant de mettre les associations en avant, c'est de mettre les individus. Et ce qui est primordial, c'est de savoir aussi qu'au sein de ces associations, ce sont les individus qui doivent ressortir. Alors là, quand l'UNICEF Mengelet nous a formulé, je dirais, nous a fait part de son souhait de vouloir aider un petit peu ces différentes associations qu'il y a sur la ville de Beauvais, nous avait dit, voilà, si vous avez besoin de moi, vous pouvez compter sur moi, je suis là, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, je serai à votre disposition. Bon, là, quand il y a eu ce tour de champ qu'il va réaliser en France, on s'est dit après tout, essayons de trouver d'abord une idée fédératrice. Parce que chaque association mène son... Il y a une association culturelle, il y a d'autres associations qui ont des vocations un peu plus particulières. Chacune dans son coin fait sa petite activité et elle ne se retrouve pas très souvent ensemble. Parce que là, il fallait trouver un projet commun pour pouvoir réunir tous ces hommes, leur parler de cette idée, voir un petit peu leur conviction et leur adhésion à ce projet, et après on met les structures pour mener et réussir ce projet, le mener à bien.
Alors, ce projet, justement, c'est quoi?
Ce qui est important aussi, je crois qu'il faut le souligner, c'est de dire aussi que parler de culture, parler un petit peu de tradition, j'ai toujours le sentiment que ça c'est un petit peu, on veut s'enraciner, il n'y a pas que c'est passéiste, mais c'est un petit peu lourd. Et moi ce que je veux c'est situer un petit peu la culture et le travail que fait aussi M. Mengele, c'est situer ça dans notre époque. Donc le projet que l'on a à l'heure actuelle, et qui effectivement, l'époque n'est pas merveilleuse, n'est pas formidable, effectivement les situations économiques ou les situations humaines sont assez délicates, donc c'était situé au travers d'un projet qu'une communauté qui vit sur le territoire national français, elle peut aussi participer et être sensible à tout ce qui peut affecter l'ensemble de cette communauté nationale. Donc là, à l'heure actuelle, le projet sur lequel nous avons réussi à nous réunir, à nous entendre, c'est de travailler en faveur des enfants. Et éviter un petit peu symboliquement que les enfants dont les parents aujourd'hui fréquentent les restaurants du cœur ou fréquentent toutes les associations caritatives, que ces enfants, symboliquement, on essaye de leur éviter ce chemin-là en leur donnant dès le départ tous les moyens de pouvoir réussir à l'école. Et ces moyens de réussir à l'école, c'est leur fournir le nécessaire vital pour pouvoir apprendre facilement, avoir les fournitures scolaires, avoir ne serait-ce qu'un cartable avec tous les éléments dedans.
Et un soutien scolaire ou...
Le soutien scolaire, sur la ville, il y a plusieurs associations qui s'occupent à longueur d'année de ce soutien scolaire, mais c'est au moins permettre dès le départ, au moment de la rentrée, au mois de septembre, que chaque enfant, dont les parents n'ont pas les moyens, et ça, toute origine et toute condition confondues, il ne s'agit pas uniquement d'enfants issus de l'immigration, ou enfants de rapatriés, ou enfants originaires d'Afrique du Nord, c'est vraiment tous les enfants dont les parents fréquentent les associations caritatives. Tout à fait. Et donc permettre à ces enfants d'avoir au moins un cartable garni. Et si le concert se passe très très bien, ça je le souhaite de tout cœur, ce sera, nous sommes en train d'aborder ce projet, se permettre de mettre à disposition un fonds qui servirait à longueur d'année. C'est-à-dire que chaque directeur d'école, s'il voit que dans sa classe certains élèves au mois de janvier, au mois de février, n'a plus les fournitures scolaires nécessaires, au moins qu'ils viennent puiser dans ce fonds. Et comme ça, à longueur d'année, au moins, on aurait des enfants qui auraient le nécessaire vital pour pouvoir apprendre.
Je voudrais juste revenir à ton premier propos. Tout à l'heure, tu nous as dit que l'UNIS avait exprimé le désir de faire quelque chose d'ordre général pour les habitants de Beauvais. Peux-tu nous dire pourquoi?
C'est vrai qu'on peut, quand on voit un petit peu les villes où va se produire l'UNIS, Beauvais paraît tout petit. Et je dirais, vous savez très bien, M. Beka, c'est un petit peu un jardin qui s'ouvre, quoi. En accueillant l'UNICEF Mengele à Beauvais, c'est, comme j'aime à le dire, c'est un cheminement, c'est un petit détour dans une amitié qui continue à se découvrir au fur et à mesure. Et on souhaite, au travers de ce projet, qu'il en tire déjà lui-même, moi ce qui me ferait plaisir au travers de ce projet, c'est qu'il en tire une très très grande satisfaction. que l'on arrive, je veux dire, au mois de septembre, avec, si vous me permettez de dire un mot, on réunit une association des dirigeants d'un supermarché, c'est, pour ne pas le citer, c'est Centre Leclerc, qui, je dirais, prend en charge l'intégralité des frais du concert, va aussi nous acheter des fournitures scolaires au mois de septembre et nous les retrocéder à prix coûtant. Mais avant, je dirais, avant d'avoir ces fonctionnalités, ce qui a été vraiment très très important, c'était de voir les hommes s'investir. Et c'est ce qui correspond, à mon avis, le mieux à la personnalité de Louis-Seth Mengelet. Lui, ce qu'il recherche, c'est l'individu. Et là, pour lui, venir à Beauvais, c'est un petit peu se mettre en avant sa fonction de chanteur. Mais je ne voulais pas, moi, le dissocier, parce que quand il nous a dit, voilà, si vous avez besoin de moi, c'est un petit peu sa fonction qu'il met en avant, mais quand on connaît l'individu, je dirais que cette fonction-là, il faut, on l'efface. On l'efface, et on voit, quand on voit l'homme, quand on connaît l'homme, effectivement, c'est une lourde mission qui nous a confié un sacré défi à relever.
Mais pas impossible, hein.
Non, c'est ça, je sais que rien n'est impossible, mais c'est vrai que ma principale satisfaction, je le redis encore, c'est que lui soit satisfait. Et que lui et son fils soient satisfaits.
Ça, je peux dire un dernier mot, une dernière question.
Ça revient, moi je voudrais juste dire un mot, ça revient exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Ed Mengelet est très vigilant vis-à-vis de ses interlocuteurs. Mmh. En entendant Hussein Rahmani, vous venez de comprendre que c'est un monsieur qui fait fédérer les gens, premièrement.
Oui.
Deuxièmement, vous avez vu un petit peu l'organisation qu'il a créée, Centre Leclerc et compagnie. Et Ed Mengelet est allé en totale confiance envers ce monsieur, il sait que le travail derrière se fera. Et je peux vous assurer que tous les autres chanteurs, quand ils ont un interlocuteur de la qualité de M. Hussein Rahmani, auront tous la même ligne conduite que M. Ed Mengelet.
Merci beaucoup. Nous avions en ligne Hussein Rahmani. Il a eu une idée pour le moins originale, c'est de fédérer autour de lui diverses associations et de les faire aller.
Merci.
Rapprocher quand même. Merci beaucoup Hussein d'avoir été des notes. À très bientôt.
Au revoir.
Vous êtes sur Bar FM, bien évidemment. Merci d'être là. On se dimanche matin dans Fréquence Matin et l'invité du dimanche, les amis d'Ed Mengelet. Et justement, puisqu'on parle d'Ed Mengelet et de cette association, je vous propose d'écouter un extrait de l'album Ah Well, ça s'appelle Les Urares.
Yeah, we're some gamma hats with the dead.
Les difficultés sont surtout d'ordre administratif, les lenteurs bureaucratiques. Autant la population aide, autant les pouvoirs publics sont amorphes, autant aussi les gens aisés se mettent à l'écart de l'effort de solidarité, ce qui peut paraître étonnant. Ils ne s'opposent pas, les gens aisés ne s'opposent pas à l'effort de solidarité, mais ils ne font rien pour prendre le train en marche, en tout cas dans ma région. Je vais me mettre à dos toute ma région, mais oui, c'est ce que j'ai rencontré. Et autant, par contre, les plus démunis s'investissent de manière mesurée, et pour ça je voudrais citer juste deux anecdotes très rapides. Nous étions en train donc de faire le volontariat d'électrification. À un moment donné, il fallait un seau d'eau, rempli d'eau bien entendu, et on était proche d'une maison.
Oui.
Le gars qui se trouvait à côté de moi, je lui dis, bah, écoute, tu rentres dans cette maison et tu vas chercher un seau d'eau. Il me regarde et puis ne bouge toujours pas. Je lui dis, mais vas-y, c'est le moment, qu'est-ce que t'attends? Et le gars, pétrifié sur place, ne me répond pas premièrement, mais n'y va toujours pas. Et j'insiste. À un moment, je le vois, il se retourne, il y va, il rentre, il prend un seau d'eau, il le remplit, il revient. Et quelques temps plus tard, j'ai appris que ça faisait 14 ans qu'il ne parlait pas au propriétaire de cette maison. Et rien que pour, si vous voulez, le croyant en l'affaire en elle-même, c'est-à-dire à l'électricité, grâce à ça, ben, il est rentré dans cette maison et il est allé chercher le seau d'eau. Et ça, c'est un effort extraordinaire de soi sur soi, si vous voulez.
Ça sert aussi à ça.
Oui. Voilà. Et la deuxième anecdote que je pourrais raconter, c'est à un moment, on rentre dans une autre maison avec une autre personne. C'était le propriétaire là, de la maison. Et on arrive dans la cour. Il fallait qu'on prenne un morceau de ferraille. Et sa femme qui nous accueille avec un sac de semoule vide et qui dit, mais attendez, vous êtes en train de suivre l'électricité et nous, on n'a rien à la maison.
Rien
à manger. Et elle a pris le sac de semoule et elle le secouait. Et moi, j'avais vraiment honte, je ne savais plus quoi faire. Et la personne dit, oui, oui, on verra plus tard. Il est allé chercher son morceau de ferraille et il est ressorti derrière. Ça, c'est vraiment des exemples très concrets que j'ai vécu. Par contre, les difficultés, c'est malheureux à dire, mais c'est souvent sur le plan local, c'est-à-dire sur le plan APC, Alors qu'elles sont là pour nous aider généralement.
Assemblée populaire communale.
Voilà, c'est-à-dire mairie pour les autres. Oui. Voilà, la Daïra, traduction
française,
la sous-préfecture. Eh bien, ces gens-là, malheureusement, freinent les actions. Par contre, à l'échelon plus élevé, je parle de wilaya, de ministère. Moi, je ne dois dire qu'une seule chose. Je reconnais leur soutien effectif et leur efficacité. Voilà.
D'accord, c'est clair. Nous enchaînons tout de suite avec notamment une personne que vous avez accueillie. On l'a répété, on répète encore. L'UNICEF Magalette sera à l'Olympia les 8 et 27 avril prochains, les deux dates parisiennes. Et justement, ça tombe bien comme enchaînement, puisqu'on va accueillir le directeur de l'Olympia, Jean-Michel Boris.
Oui, ce n'est pas tous les jours que nous avons la chance d'avoir au bout du fil une personnalité du spectacle aussi imminente, le directeur de l'Olympia, M. Jean-Michel Boris. M. Jean-Michel Boris, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Becker.
Vous bonjour. Bien
bonjour, Jean-Michel Boris. Jean-Michel Boris, j'ai l'occasion en tant que critique musicale donc de vous suivre, puisque je fais aussi la chanson française, surtout la chanson française que je fais. Au même titre que la chanson de mes origines, et maghrébine en général, ou d'ailleurs. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre très très intéressant.
Oui, j'ai commis il y a quelque temps un livre qui fut un échec pour moi parce qu'il ne s'est pratiquement pas vendu, qui s'appelle 28 boulevard des Capucines, mais je voulais raconter effectivement mes quelques années d'Olympia, parce que maintenant, aujourd'hui, ça fait maintenant 43 ans que je suis à l'Olympia. Alors, il y a quelques 5-6 ans, j'ai commis ce livre, et ma foi, bon, les gens n'ont pas eu l'air d'être extrêmement intéressés par la vie de ce lieu. Mais en tout cas, je pense que maintenant, en fonction des différents changements qui vont se produire l'année prochaine, l'Olympia est redevenu vraiment à la mode.
Et l'ouvrage, je souhaite, redeviendra à nouveau.
Justement, on parle de l'Olympia, Jean-Michel Boris, juste une petite question de Saint-Affèque.
Oui, monsieur Boris, cette salle mythique va être, comme vous venez de le dire, rénovée, je crois, en 97.
En 97, oui.
Avez-vous les garanties qu'elle gardera toute sa magie sur le plan esthétique et
acoustique? D'ailleurs, la première garantie, c'est moi-même. Hein. Je peux vous dire que je me suis beaucoup battu, aidé en cela par le spectacle, par les gens du spectacle, du fonds de soutien, par le ministère de tutelle, par la mairie de Paris, et maintenant nous avons des accords extrêmement précis avec la Société Générale qui nous laisse penser que vraiment, lorsqu'on ouvrira en octobre 97, eh bien les gens seront heureux de constater que l'Olympia a conservé toute sa poésie, toute son âme.
Alors, Jean-Michel Boris, moi je voulais vous demander une chose. Vous savez, je suppose que le premier chanteur algérien qui s'est produit à l'Olympia, c'était en 1917, c'était Aïssa Djermouni.
Ah, je ne savais pas, En 1917,
oui. C'était donc un chanteur berbère des Aurès. C'est à l'époque où on avait des volontaires algériens, enfin des volontaires mobilisés de force algériens.
Oui, oui.
Et Aïssa Djermouni, qui n'existe plus, mais qui était un grand chanteur, donc c'était le premier. Alors, il y a eu toute une période, pendant la floraison, si je puis dire, la chanson kabyle, où pas mal d'artistes se sont succédés sur la scène Olympia, mais souvent c'était le fait de spectacles organisés les jours de relâche, en général, et par des associations. Alors moi,
ce n'est pas simplement le fait, soyons clairs. Hein.
Oui.
L'Olympia a une attitude politique, toujours. C'est-à-dire que nous n'ouvrons nos portes que si nous le voulons bien.
Bien sûr.
Que ça soit clair. Donc, nous avons ouvert nos portes à beaucoup, beaucoup de chanteurs kabyles, parce qu'effectivement, j'ai toujours considéré, en accord avec Bruno Guglietrich lorsqu'il était vivant, qu'il fallait ouvrir ses portes à de nombreuses minorités existantes en France. Or, la minorité kabyle est une minorité extrêmement intéressante avec laquelle j'ai finalement petit à petit établi des liens et dont le lien le plus important est naturellement Aït Manguelet, grâce à M. Beka, mais avant que je connaisse M. Beka, Aït Manguelet était déjà passé à l'Olympia à différentes reprises.
Alors, justement, vous parlez, au passage, c'est vrai, minorité kabyle, quoique elle est plus minoritaire en Algérie, majoritaire ici.
Bien sûr, peut-être, oui.
Alors, je voulais vous demander, donc, qu'est-ce qui vous a séduit chez Aït Manguelet? Il y a une anecdote particulièrement savoureuse à ce sujet. Quand vous avez découvert un peu ce côté fédérateur, rassembleur de l'UNIS.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
Écoutez, je ne vois pas l'anecdote en question. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ce qui m'a touché,
oui,
c'est que c'est un homme vrai, vous voyez, sincère, avec une ouverture d'esprit, et puis surtout un sens de la justice et de la tolérance. Et moi, ce sont des qualités qui me touchent énormément et qui ont fait que je suis particulièrement attaché à Yves Pinguelet, et qu'à chaque fois que je lui ai donné la possibilité de le recevoir, je le fais, mais vraiment pour le plaisir.
Jean-Michel Boris, justement, nous allons enchaîner sur une question qui elle-même est la suite logique de la question posée à l'instant par Robert Mézouane. On a compris que vous appréciez beaucoup l'artiste Lounis Aïd-Mangalet. Est-ce que vous pouvez nous donner votre appréciation sur son public, puisque vous le connaissez bien, vous êtes directeur de l'Olympia?
Ah ben écoutez, le public Kabyle est un public vraiment d'une grande amabilité, très agréable. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec ce public-là. À chaque fois, les séances se passent dans une atmosphère bon enfant et le déroulement se fait sans le moindre incident. Et à la fin, le spectacle, qui est quand même assez long en général, se termine sur une apothéose. Les gens sortent heureux et vraiment, je ne peux que me féliciter de ce public-là.
Moi, je voudrais vous renvoyer le compliment puisque j'ai à votre service un compliment. C'est... Comme je représente avec Mengelet et que je suis en permanence en contact avec les gens de l'Olympia, et je voudrais dire une chose, c'est que j'ai rencontré un professionnalisme rare parmi les gens de l'Olympia, et ça a toujours été extraordinaire, aussi bien pour Yves Mengelet que pour moi, de travailler avec la maison Olympia et M. Jean-Michel Boris, ainsi que M. Chassin et tous les autres.
Merci beaucoup Jean-Michel Boris d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Olympia et que vous allez accueillir Lounis Aïd-Mangalet les 8 et 27 avril prochains. Merci beaucoup Jean-Michel Boris. Bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir. On va enchaîner peut-être avec un petit peu de musique, si vous le voulez bien, et puis un extrait du dernier album en date d'Aïd-Mangalet.
Thank you.
Avec l'extrait du dernier album en date, ça s'appelle Le Voyageur de Nuit, c'est le titre de l'album. Je voulais vous rappeler que Louis et Magalette, si vous l'ignorez, est en concert les 8 et 27 avril prochains. On vient d'avoir le directeur d'Olympia qui a son soutien total, qui donne son soutien total à l'Unis et Magalette. Et à ce propos, si vous assistez à l'un de ces deux concerts, ces deux dates parisiennes, sachez que vous pourrez remporter un cadeau exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. Un tirage au sort sera effectué sur la scène même de l'Olympia lors du concert et vous pourrez remporter un séjour de rêve d'une semaine, avion compris, pour un couple dans un hôtel 5 étoiles. Et me direz-vous, où puis-je aller? Bah, où vous voulez. C'est vous qui choisirez la destination qui vous plaît le plus partout dans le monde, sur la planète. Il n'y a réellement pas de restriction. Et ça, l'AFPK va même le confirmer.
Si, il y a une toute petite restriction qui est celle-ci. Il faudra, lorsqu'on veut aller quelque part, que ce soit à Barbacha ou à Eribouamès ou à Tahiti ou en Chine, donner sa lieu de destination 3 semaines avant, tout simplement.
Impératif de temps, mais je peux aller où je veux si, par exemple, je suis parmi les gagnants, la personne qui remportera dit je vais en Chine, aux États-Unis, au Canada, je peux y aller.
Si vous voulez qu'on vous parachute d'un avion sur une île déserte, on le fait aussi.
Il n'y a pas de problème, mais là, il faut prendre des risques, il faut être cascadeur. Je voulais justement dire que, notamment, ce tirage au sort et ce cadeau vous sera offert par le garage PKAP et ses carrosseries, qui est situé à Aubervilliers, et l'agence Goutte d'Or Voyage, Rabah Mezouane voulait nous dire deux mots, puisque c'est le spécialiste de Louis et de Magalette, il nous fait des traductions en même temps, il y a des citations aussi, il voulait dire deux mots sur la chanson que nous venons juste de diffuser à l'instant.
Alors, comme tu l'as dit, Kader, Emine Pierre, c'est le voyageur de Louis, c'est la chanson qui a donné son titre à cet album, et grosso modo, c'est une chanson très pathétique, très émouvante, puisqu'il raconte la destinée d'un messager de la paix qui, malheureusement, n'arrivera pas au terme de sa mission, qui sera fauché. Alors, moi, je voudrais revenir sur ces jours, Salah Beka. Vous parlez de planète, et je voulais savoir s'il s'agit de la planète Terre ou si on peut aller dans une autre galaxie.
La planète Mars ou Jupiter, c'est possible.
Est-ce qu'on peut aller...
Non, mais ça, ça sera pour le prochain gala, mais pour l'instant, on reste sur notre planète.
Et on peut aller à Roubaix aussi.
On peut aller à Roubaix, mais là, il y a un gros problème. C'est le seul endroit qui, pour l'instant, on ne pourra pas joindre, parce que je crois qu'ils ont été affectés par le décalage horaire. C'est vrai que cette association, dont le président est M. Kamal Chatter, cette association de solidarité, culture et démocratie, qui a été créée depuis le 28 mars 1995, à but humanitaire, développe et ainsi que le civisme des jeunes issus de l'immigration. Et malheureusement, ces gens-là, ben, je crois qu'ils sont partis, eux, à Mars, parce qu'on n'arrive pas à les joindre au téléphone.
Eh oui, dommage pour eux, ils ne gagneront pas ce séjour de rêve d'une semaine.
Ben, ils se rattraperont le 27.
Oui, effectivement, parce que pour le 8, c'est un peu...
Mais il y a le même tirage le 27.
Alors, il y a deux tirages au sort, 8 et 27 avril.
Voilà.
Deux chances de gagner.
Tout à fait.
Eh ben, une occasion de plus d'aller voir Louisette Mégalette sur la scène de l'Olympia. On va enchaîner avec nos questions avant de poursuivre avec le Tour de France des associations, et notamment une question à Salah Pekka, président de l'association Les Amis de Mégalette. Une question aussi qui s'impose. Quels sont vos soutiens politiques, s'il y en a, Salah Pekka?
Des soutiens politiques, nous n'en avons pas. Mais il est vrai que certains partis politiques apprécient ce que nous faisons, et je parle de tous les partis politiques, et ils en font même l'éloge entre eux, ils soutiennent nos initiatives, mais soutien politique purement et simplement, il n'y en a pas.
D'accord. D'autre part, on parle des soutiens politiques, quels sont vos soutiens financiers? Une association, faut qu'elle vive, faut qu'elle ait des fonds, une trésorerie, comment les financer l'association Les Amis de Mégalette?
Alors, par principe, nous ne sollicitons pas de subventions. Nous n'avons jamais fait de demande. Eight Ringlet, par ses prestations, parvient toujours à dégager une marge pour les associations concernées. Quant à notre association, elle ne touche jamais un sou des opérations menées entre elle et M. Eight Ringlet. Nous avons une manière de travailler qui est assez simple, c'est que nous mettons nous-mêmes l'argent nécessaire pour commencer l'action, et ensuite nous reprenons au bill, entre guillemets, et le bénéfice, le fruit de l'opération est toujours donné à une autre association. Voilà en gros notre manière de travailler.
Et ben on va enchaîner avec le Tour de France des associations, justement, puisqu'il en est question. On va en région parisienne, en Aubervilliers, accueillir M. Lorenzo, qui s'occupe de l'association Citoyens Solidaires.
Oui, Citoyens Solidaires, c'est une association qui va recevoir avec Mégalette le 4 et le 5 mai à Aubervilliers, au Théâtre National. Cette association de développement civique international, ayant des comités locaux à travers la France, afin de développer des actions principalement sur le livre, à la fois dans nos banlieues comme à l'étranger. Nous avons au téléphone M. José Lorenzo pour nous présenter cette association. Il est le responsable des comités locaux et de Citoyens Solidaires. M. Lorenzo, bonjour.
Bonjour M. Bécard. Bonjour à toute l'équipe de Beurre FM.
Bonjour à vous, M. Lorenzo.
Alors, Monsieur Lorenzo, M. Beka vous a plus ou moins situé, là. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur Citoyens Solidaires et notamment ses actions au niveau de la banlieue?
Oui, Citoyens Solidaires, c'est une association de personnes qui, à l'heure de la mondialisation de l'économie et au moment où des problèmes comme l'écologie ne connaissent pas de frontières, pensent qu'il faut développer une certaine opinion publique internationale. Par ailleurs, pour développer cette opinion publique, il faut que la citoyenneté puisse se développer. Et en banlieue, notamment, en France, les problèmes de citoyenneté se posent. Et au niveau de nos comités locaux, on développe des actions de solidarité vis-à-vis des associations de quartier pour leur permettre, par exemple, de faire du soutien scolaire, pour les sensibiliser à la vie internationale, pour les inciter à participer à la vie publique locale, à la vie associative aussi, et par l'intermédiaire aussi de nos actions de solidarité internationale.
C'est un peu la fureur de lire, quoi.
Oui, c'est un petit peu la fureur de lire.
Justement, M. Lorenzo, on va vous poser peut-être une question. Pourquoi Eight Mégalette Projet, pourquoi cette association, entre vos deux organisations, entre Citoyens Solidaires et les Amis d'Eight Mégalette à Aubervilliers?
Je pense que Eight Mégalette, c'est un poète, un chanteur, c'est un artiste qui par ses textes lutte aussi contre la répression. Et nous l'avons vu tout au long de l'émission, c'est aussi un citoyen qui agit aussi bien en Algérie pour développer des projets économiques, culturels, en France par l'aide qu'il apporte aux différentes associations, comme la nôtre d'ailleurs, qui souvent ont du mal à se faire connaître. Et finalement, il représente assez bien ce que veut développer Citoyens Solidaires, c'est-à-dire le respect de la diversité, de la richesse des cultures dans le monde, et en même temps, par son engagement, l'universalité de certaines valeurs, comme la liberté, la démocratie et la solidarité.
Alors, qu'attendez-vous un peu de cet événement qui, parce que son état, vous savez, comme ça, à titre personnel, je peux vous le dire, que c'est la première fois que l'UNIS Aït Mengilad se produit donc dans cette bonne ville d'Aubervilliers, qui est, ma foi, active, notamment dans le domaine théâtral, pour ceux qui suivent le théâtre. Et qu'en attendez-vous concrètement?
Une question posée par Rabat Mezouane.
Bah écoutez, évidemment, on espère réussir ces concerts, mais je pense qu'avec une personnalité comme Aït Mengilad, ça ne posera pas de problème. Mais ce que je souhaiterais, c'est surtout avoir un public très diversifié, afin de faire connaître cette culture kabyle, et de mettre un petit peu aussi de gomme au cœur à une communauté qui est souvent la cible d'attaques xénophobes. Et déjà en soi, ce serait déjà un succès. Mais on espère aussi, par ces concerts, qui permettront à Citoyens Solidaires de se faire connaître, évidemment, et ça, je dois remercier M. Meikideka et l'association des Amis d'Aït Mengilad qui ont apporté un précieux soutien. Et nous avons actuellement une opération avec une association oranaise, le Petit Lecteur, qui distribue essaie d'initier des jeunes à la lecture de livres qui sont autres que des livres scolaires. Et nous avons donc besoin de collecter des livres. Et j'espère aussi rencontrer, nous rencontrerons pendant le concert des hommes, des femmes qui vont participer à notre action et peut-être eux-mêmes développer des comités locaux. Et j'espère donc que ce concert sera un succès au niveau de l'image qu'il pourra donner de la communauté kabyle algérienne en France, que au niveau des actions qu'il pourra entraîner par la suite.
Merci beaucoup Monsieur Lorenzo d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous occupez l'association Citoyens Solidaires à Aubervilliers. On vous souhaite un bon courage pour la suite et une bonne continuation.
Merci.
À très bientôt Monsieur Lorenzo. Au revoir. On enchaîne tout de suite d'Aubervilliers. On passe à Blanc-Ménil avec Achour Fernand qu'on va accueillir pas plus tard que tout de suite. Une présentation peut-être sommaire par Salah Bekin.
Alors un week-end sur l'Algérie sera organisé par la ville de Blanc-Ménil, une autre banlieue, et l'association Vivre et Agir au Blanc-Ménil organise. Il y aura dans ces deux journées des expositions de peinture, des photos d'artisanat, des conférences et des spectacles. Achour Fernand s'occupe de la programmation de ce week-end. Achour Fernand, bonjour. Je crois qu'il n'est pas là.
Oui.
Tiens, tu es là.
Oui.
Ça va, Achour?
Oui, très bien. Très dur ce matin, mais ça va.
Je l'entends mal, là.
Ah, oui, tes voilà. Habitudes, Achour.
Oui,
il faut bonjour, arrêter.
Bonjour, Kader.
Il faut arrêter la tisane. Hein.
Bonjour, Achour Fernand, comment ça va?
Très bien, Kader.
En pleine forme, très heureux de t'accueillir, Achour Fernand.
Moi aussi, je suis heureux de vous entendre. Je vois que vous êtes tous les trois dans ce genre de combat, dans ce genre d'action. C'est super.
Ouais. Merci de nous rejoindre.
T'es dans le coup, donc, aussi, toi, sur Blanc-Ménil. Je voudrais te poser une question. Comment t'es venue l'idée de ces deux journées, si c'est, l'idée vient de toi, bien entendu?
Ben, l'idée ne vient pas de moi. L'idée vient comme tu l'as dit tout à l'heure, de la ville de Blanc-Ménil et de l'association Vivre et Agir au Blanc-Ménil. Et il était question de deux journées, un week-end autour de l'Algérie. On a attendu un peu que les choses, qu'on voit un peu plus ce qui se passe en Algérie. Et ensuite, donc, on a pensé à organiser deux spectacles, des conférences, un peu tout pour avoir un aperçu le plus éclectique sur ce pays-là. Bon, c'est toujours difficile, bien entendu, mais bon, on le fera. Voilà.
Achour Fernand, on va enchaîner sur une question. On sait qu'il y a de nombreux artistes qui auraient pu se produire à Blanc-Ménil. Pourquoi le choix de l'UNIS Aït Mengilad?
Tout d'abord, je crois que les personnalités, je dirais, comme l'UNIS Aït Mengilad, sont le levain de notre communauté. C'est avec des gens-là, des personnalités comme l'UNIS, que notre communauté avance, peut-être difficilement, mais elle avance tout de même. Je crois que c'est en faisant des actions, parce que j'ai suivi votre émission depuis le début,
oui.
Je vois qu'il se passe à peu près la même chose, et c'est en menant des actions de ce type-là, en essayant d'occuper le terrain, en faisant participer des chanteurs comme l'UNIS, qu'on pourra enfin exister d'une façon ou d'une autre.
Achour Fernand, on va peut-être vous remercier d'avoir été des nôtres ce matin. Merci beaucoup de vous être levé tôt, puisque cette émission s'est préparée très tôt ce matin. Et bon courage pour la suite. On vous dit à très très bientôt, Achour Fernand.
Merci à vous de m'avoir.
Au revoir, merci beaucoup. Nous enchaînons sur un petit peu de publicité dans cette émission, la vidéo du dimanche des Amis et de Mégalette. On se retrouve dans un instant. Pour conclure, nous avons encore un petit quart d'heure à passer ensemble. À tout de suite. Puisqu'on parle de l'association Les Amis d'Ed Mengalette Projet, on a encore 10 minutes à passer ensemble, et mes deux invités, Rabah Mezouane et Salah Pekka. Salah Pekka est président de l'association Les Amis d'Ed Mengalette, et Rabah Mezouane est un confrère, il est journaliste, mais aussi réalisateur de télévision. Et Rabah voulait dire deux mots.
Oui, Beur FM ne donne pas l'heure.
Beur FM ne donne pas l'heure, on ne la donne pas à midi moins 10, cher Rabah, on la donnera à midi pile. Midi pile, vous aurez l'heure.
Alors, on a écouté là un extrait d'un autre album, de Lounis, d'un précédent album qui est très beau aussi, où notamment, c'était une première dans cet album, il y avait un titre qu'on n'a pas le temps d'écouter, où Lounis avait adapté une musique de Mikis Theodorakis. Mais ça, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire, on n'a pas le temps malheureusement de s'y attarder. Je veux juste vous signaler, si vous prenez l'émission en cours, que cette émission, bien évidemment, est consacrée aux Amis d'Ed Mengalette Projet, et que si vous avez l'honneur, l'avantage, et tout simplement, j'allais dire, le temps d'aller applaudir Lounis Ed Mengalette les 8 avril et 27 avril prochains, vous aurez aussi la chance de remporter un magnifique voyage, puisqu'un tirage au sort sera effectué directement sur la scène de la Pierre. vous pourrez gagner un magnifique séjour, un séjour de rêve qui durera une semaine avec avion, bien évidemment, pour y aller, aller-retour et hôtel 5 étoiles compris. Tout cela dans ce magnifique cadeau et vous choisirez votre destination. Je ne sais pas si ça a déjà été fait dans d'autres tirages au sort, mais c'est réellement un cadeau exceptionnel. Donc un voyage à gagner, un séjour d'une semaine de rêve. Vous choisissez où vous désirez aller, on vous paye l'avion, aller-retour et on vous paye aussi l'hôtel 5 étoiles.
Un peu comme dans les amours,
un petit peu comme
les amours. On est sur
Beurre FM. Un peu comme chez Nagui aussi, dans la brosse à dents, où on vient pour gagner un voyage avec sa brosse à dents et son passeport.
Qu'on n'a pas oublié ce matin, ni Sala d'ailleurs.
Sauf que chez Nagui, la destination est donnée.
La destination est donnée,
ouais.
Il faut une brosse à dents et un passeport. Là, à l'Olympia, on n'a même pas besoin de la brosse à dents ni du passeport.
Si, il faudrait quand même le ticket.
Le ticket ?
Ouais, oui, d'entrée.
Pas de passeport.
Non, non.
On va enchaîner peut-être redevenir plus sérieux pendant quelques minutes. Pour terminer avec la situation des Émirats de Magaleb, on en a su, j'allais dire, on a su un petit peu les activités, les projets que vous avez développés. On a cité les 18 villages qui ont été équipés en château d'eau. On a dit que 13 villages au total aussi ont été électrifiés grâce à l'association des Émirats de Magaleb projet. Alors de quelle manière justement la population algérienne s'intéresse-t-elle ou s'est-elle intéressée aux actions de solidarité des Émirats de Magaleb?
Oui. Je crois qu'ils s'intéressent à toutes les actions de solidarité, pas seulement aux nôtres, mais en ce qui concerne nos actions à Barbacha, Eri Boumès, à Zazga, je vous assure que cela fait le tour d'Algérie et cela fait boule de neige. J'en veux pour preuve, l'École des Beaux-Arts, d'autres associations ont pris le relais. À Eri Boumès, leur centre culturel est construit, est ouvert, et même bien ouvert. Il y a aussi une histoire que je voudrais raconter, par exemple un village qui n'était pas électrifié, qui se trouvait encerclé par d'autres villages qui étaient, eux, électrifiés. À l'arrivée des poteaux électriques pour électrifier ce village non électrifié, tous les villages avoisinants, les femmes sont sorties dehors en faisant des you-you, et les hommes ont pris des fusils, je peux vous assurer que c'est vrai, puisque j'y ai vécu cette situation, et les hommes sont sortis et ont tiré des coups de fusil en l'air pour exprimer leur joie, que les autres obtiennent l'électricité, parce qu'ils avaient quand même 14 ans de retard, alors qu'eux avaient l'électricité depuis longtemps. Si ça, la solidarité, ça s'appelle pas de la solidarité, je sais pas ce que c'est. Par contre, bon, bah, il y a des choses qui ne vont pas très bien. Par exemple, à Toudja, l'eau court toujours.
Oui. On peut dire, là, on parlait de fête à l'instant, peut-être citer une date qui est entrée dans l'histoire de l'Algérie et de la région de Barbacha. C'était le 15 avril 1990, à 20h, très précisément, la wilaya de Béjaïa a organisé une grande fête communale de l'électrification. Ça se passait au stade de Barbacha. Il y avait l'UNICEF Magalet, Aristide Moussaoui, qui était là, d'autres artistes, notamment Citra Irmen, Saoudi, ou le groupe Tilavi, tout cela pour faire la fête et donc couronner ce projet.
C'est vrai que ce jour-là et à cette heure-là, la wilaya, c'était Barbacha à Béjaïa.
Et c'est là que ça se passait.
Ouais. La reine d'un jour, comme on dit.
Oui.
Rennes d'un jour grâce à ce projet d'électrification de 13 villages. Justement, on parle de Lucette Maguelet, c'est un artiste, c'est un chanteur. Est-ce que Salah Beka, vous ne trouvez pas que les chanteurs ne sont pas assez solidaires le sont ou ne le sont pas? C'est la question qu'on vous pose.
Pourquoi? Vous trouvez qu'ils ne chantent pas assez?
Qu'ils chantent assez, mais est-ce qu'ils ont des élans de solidarité et des actions?
Oui, c'est vrai, Kader, je plaisantais. Le fond du problème est ailleurs. Les actions de solidarité ne sont pas le métier des chanteurs. Ça, c'est un avis que j'ai. Il faut d'abord convaincre sur le terrain, payer de sa personne par la réalisation d'actions concrètes, ensuite les mener à bien, et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, ils accepteront de s'investir autant que vous dans tous les autres projets. Parce qu'il y aura eu l'instauration d'une crédibilité, d'une confiance, d'une loyauté. Les éléments qui sont les éléments impératifs à la concrétisation de grandes idées. Et je crois qu'il ne faut pas prendre le problème inverse en disant pourquoi les chanteurs ne viennent pas nous aider et ensuite on fera quelque chose. Nous, bon, nous avons la chance et l'honneur, et je peux vous assurer que je le ressens tous les jours, de représenter et d'avoir une lettre avec nous, mais n'oubliez pas une chose. C'est que quand nous, on s'est mis à la tâche, c'est-à-dire, par exemple, cette électrification et d'autres actions, on parle de l'électrification parce que c'était en 89-91, là où on a connu Etnglet, mais je vous ai dit, notre association de fête, c'est-à-dire ce groupe d'amis de Barbacha, a fait des actions depuis 87. Quand on a fait notre électrification, on ne connaissait pas Etnglet. C'est après, à la fin de l'électrification, quand on a voulu faire le concert, qu'Etnglet, nous sommes allés le voir et lui nous a rejoints. Et je suis persuadé que tous les chanteurs, quand ils trouveront en face d'eux des gens qui ont payé, qui ont montré patte blanche, si vous voulez, qui ont payé de leur personne, je suis sûr et certain, mais j'en suis convaincu que tout chanteur répondra présent ou viendra de lui-même, comme a fait Itmen Guelet tout à l'heure à Beauvais en disant « Est-ce que je peux faire quelque chose d'intérêt général ?» Il ne faut pas oublier aussi que nos châteaux d'eau, c'était Itmen Guelet qui avait posé la même question, pas à Beauvais, mais à Barbacha. Quand il est venu à Barbacha, il m'a dit tout simplement, c'était lui l'initiateur pour les châteaux d'eau, en disant « Je voudrais faire quelque chose pour la communauté de Barbacha, et qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et là, je suis allé dans tous les villages, et c'était l'eau qui revenait. Donc, pour pouvoir obtenir l'adhésion des chanteurs, il faut déjà bosser, et après, aller les voir.
Quels sont justement, avant de conclure, ce sera l'avant-dernière question, les futurs projets de l'association, les Amilette Magalette Projet?
Ben écoutez, nous, on a deux souhaits. Premièrement, en France, cette année, près de 12 000 personnes à travers toute la France se trouveront autour de M. Itmen Guelet. Et notre souhait est que la prochaine représentation de M. Itmen Guelet en France les réunisse dans le même espace. Ça, c'est le premier souhait. Et j'espère notre futur projet, toujours pour une action humanitaire, une action de solidarité. Et en Algérie, notre souhait, c'est que dans un climat d'apaisement, notre souhait est de retrouver les lettres de noblesse d'un 5 juillet autour d'une cause de solidarité à l'intérieur de son stade à Alger. Voici, comment dire, nos futurs projets.
Alors, vous parliez réunir donc 12 000 personnes à travers toute la France qui vont se retrouver autour de Gounissa et Mignette dans un même espace. On peut dire merci beaucoup ou merci beaucoup.
Comprendra qui pourra. Voilà.
Je crois que c'est une noble idée.
La dernière question ira bien évidemment à Salah Beka. Depuis que vous côtoyez l'artiste Gounis Saïd Mengalet, si vous deviez ne garder que deux images fortes de l'artiste, quelles seraient ces deux images constantes à votre esprit, Salah Beka?
Deux images, je ne pourrais pas en tirer. J'en ai plein la tête, plein les poches, plein la malle de la voiture et même, je dirais,
plein le garage. On n'a pas tout déchargé de la voiture.
Hein, voilà, tout à fait. Écoutez, deux images, je ne sais pas. Par exemple, j'ai une image du tout début d'Aït Mengelet. On était dans ma voiture, on allait chez moi, il avait acheté un cadeau pour ma femme et ma fille, et dans la voiture, il me dit, Monsieur Beka, voilà, j'ai acheté des cadeaux pour votre famille, vous pouvez les remettre? Moi, je me suis dit, non, vous avez acheté des cadeaux, vous les remettez vous-même. Mais j'avais pris ça à la légère. Je n'avais pas très bien compris un petit peu son insistance. Il a insisté, puis moi, têtu, je n'ai pas bougé. J'ai dit, non, c'est à vous de les remettre. Et quand il a remis ses cadeaux à ma femme et à ma fille, je vous assure que j'ai vu l'arc-en-ciel le traverser. Il est passé du bleu au violet, au jaune, au rouge. Et c'est là que j'ai compris vraiment sa timidité, si vous voulez, l'homme qu'il était dans le sens de la valeur humaine. Et je me suis dit, ça, il ne faudra jamais le refaire. Et depuis ce jour-là, j'essaie de lui éviter ce genre de choses. Ça, c'est une image, c'est un peu un regret, si vous voulez. Et je n'ai pas su détecter cette situation. Je n'ai pas su détecter cette situation.